Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un immense soulagement pour Emmanuel Macron, une joie intense pour Sébastien Pétronin. Sa mère, Sophie Pétronin, a été libérée hier soir après 4 ans de captivité au Mali. Nous reviendrons sur les conditions de sa libération dans un instant. Verbatim ensuite des annonces du ministre de la Santé hier soir. Après Paris et sa petite couronne, après Aix-Marseille, 4 métropoles passent en alerte maximale face au Covid-19. Et puis, que se passe-t-il au Japon pour que le Premier ministre soit bousculé par des universitaires et des chercheurs? Il l'accuse en fait de violer le principe de liberté académique. Nous irons à Tokyo dans cette édition. C'était la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin a donc été libérée hier soir, presque 4 ans après son enlèvement à Gao, dans le nord du Mali. 4 ans passés aux mains de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, une émanation d'Al-Qaïda. Sophie Pétronin est maintenant dans un vol pour la France, après une semaine d'incertitude, faisant craindre même une négociation avortée, Claude Guibal.
Il y a d'abord eu ces avions discrets qui se sont posés le week-end dernier dans le centre et le nord du Mali avec à leur bord ces hommes, des prisonniers. Une libération d'une ampleur exceptionnelle, plus de 200 djihadistes, qui a fait comprendre que des négociations hors normes étaient en cours. Entamées depuis des semaines par la junte au pouvoir au Mali depuis le coup d'état du mois d'août, ces négociations secrètes avaient pour but principal la libération de Soumaïla Cissé, un grand leader politique de l'opposition malienne, kidnappé en mars dernier. Le nom de Sophie Pétronin ne s'est ajouté que sur le tard à ces négociations. Mais alors que lundi, leur libération était annoncée comme imminente, tout s'est arrêté. Terrible silence, révélateur d'ultimes tractations, intervention d'autres acteurs étrangers, parasitage. Deux jours où un avion vide a attendu à Tessalit que les négociateurs arrivent avec les otages récupérés auprès de leurs ravisseurs respectifs. Terrible attente pour le fils de Sophie Pétronin, Sébastien, qui attendait à Bamako la fin de 4 ans d'un combat obstiné d'un fils qui n'a jamais cessé d'y croire.
Sébastien Pétronin, très ému en effet, qui a donc retrouvé sa mère hier soir à Bamako. Vous l'entendrez dans le journal de 7h sur France Culture. Cette nuit, la Française a dit quelques mots à nos confrères de RFI. Elle souhaite retourner à Gao, dans le Nord Mali, pour s'assurer, dit-elle, que l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait avant d'être enlevée continue toujours à fonctionner convenablement. Emmanuel Macron accueillera la désormais ex-otage Sophie Pétronin dès son retour en France aujourd'hui. 4 métropoles françaises basculent en zone d'alerte maximale pour faire face à la propagation du Covid-19. Il s'agit de Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. L'annonce a été faite hier soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dès demain donc, les mesures sanitaires seront renforcées dans ces zones avec la fermeture des bars et un protocole plus strict dans les restaurants, Cécilia Arbona.
C'est une liste inquiétante qui s'allonge. Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon passent donc en rouge écarlate sur la carte de France. Un point d'interrogation plane sur Toulouse et Montpellier. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Pour Toulouse et Montpellier, nous nous donnons quelques jours d'observation pour vérifier si la situation sanitaire se dégrade et si les indicateurs sont franchis. Une bascule en zone d'alerte maximale pourrait être opérée d'ici à lundi matin.
Deux nouvelles villes passent en alerte renforcée.
Dijon, que vous voyez apparaître, a maintenant un taux d'incidence chez les personnes âgées qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée. De la même manière que Clermont-Ferrand, pour ces deux métropoles, ce passage se fera dès samedi matin.
Le discours se fait pédagogue. Olivier Véran regarde chaque Français dans les yeux.
Dans cette lutte que nous menons, cette lutte acharnée contre la diffusion du virus, nous détenons chacun de nous une part de la victoire.
La locution se termine par un message d'affection, presque tendre, envoyé aux soignants.
Nous tenons à vous, soignants. Nous vous remercions pour votre mobilisation de tous les instants. Et j'en profite pour appeler celles et ceux qui le peuvent également à rejoindre les renforts à travers la réserve sanitaire.
Problème, une partie des effectifs de cette réserve sanitaire est déjà sollicitée en Île-de-France.
Cécilia Arbona pour France Culture. Hier soir aussi, aux côtés d'Olivier Véran, Bruno Le Maire a pris la parole. Le ministre de l'économie annonce l'extension du fonds de solidarité à de nouveaux secteurs reliés aux activités de la culture, du tourisme, du sport, qui n'étaient jusque-là plus pris en compte. Cela concerne les entreprises jusqu'à 50 salariés au lieu de 20. Plafonnement des volumes et usage limité. L'agence sanitaire, l'ANSES, annonce des restrictions d'utilisation pour le glyphosate, pour la viticulture, l'arboriculture ou les céréales. Ces restrictions entreront en vigueur dans les 6 mois qui viennent pour avancer vers la fin totale de l'herbicide controversé promise pour 2023 dans le pays. Notons aussi que l'Assemblée nationale hier a donné son premier feu vert pour une proposition de loi qui permet notamment l'allongement du délai légal pour recourir à l'avortement. 86 voix pour, 59 contre à l'issue de débats houleux avec la droite. C'est désormais au tour du Sénat d'examiner cette proposition de loi. Le délai pour pratiquer une IVG en France pourrait donc être allongé de 12 à 14 semaines. Applaudissements des féministes, critiques déjà des gynécologues. À peine installé au pouvoir, le premier ministre japonais Yoshihide Suga affronte une crise inattendue. Le chef du gouvernement est vivement critiqué au Japon par le monde universitaire et scientifique. Il l'accuse, et ce n'est pas rien, de violer le principe de la liberté académique, pourtant inscrite dans la Constitution. Explication de Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo.
C'est le Premier ministre lui-même qui a mis le feu aux poudres. Il a retoqué la nomination de 6 universitaires au Conseil scientifique du Japon, une sorte d'académie des sciences. D'habitude, depuis 7 décennies, le Premier ministre se contente de valider les noms de personnalités reconnues dans leur domaine et officiellement recommandées par leur pair pour rejoindre cette instance financée par les pouvoirs publics mais indépendante. C'est donc une nomination de pure forme. Mais cette fois, le Premier ministre Suga s'en est mêlé, jugeant que ces scientifiques avaient pour mission de travailler pour le pays et qu'il était donc légitime de sélectionner. Du coup, tout le monde le soupçonne d'avoir purement et simplement sanctionné des spécialistes du droit, de la politique, de la religion ou de l'histoire qui ne lui plaisent pas. Car ces 6 personnes écartées ont en commun d'avoir dans le passé pris position contre des lois et avis du gouvernement Abe, dont l'actuel Premier ministre était un pilier. L'onde de choc dépasse les seuls milieux universitaires, des journalistes, des écrivains, des réalisateurs de cinéma, des avocats, des constitutionnalistes, de nombreuses instances éducatives, scientifiques ou culturelles dénoncent une situation extrêmement grave, une menace pour la liberté d'expression et la liberté académique. Autoritaire et entêté, le Premier ministre Suga est réputé pour avoir fait le tri dans l'administration, mais en s'attaquant désormais au milieu académique, il franchit un niveau que beaucoup jugent inacceptable.
Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo. Plus au nord, vers les îles Kuriles, une nappe de pollution de 40 km de long a provoqué des morts massives d'animaux, des blessures aux baigneurs dans l'extrême-orient russe. Cela se passe au Kamtchatka. Cette pollution se déplace sur l'eau et dérive vers le sud, donc vers le Japon, sans diminuer de taille, indique déjà un biologiste russe sur place. Vladimir Poutine invite au Kremlin aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Les deux pays sont engagés, je vous le rappelle, dans des combats meurtriers dans la région séparatiste du Haut-Karabakh depuis presque 2 semaines. Moscou espère un cessez-le-feu. 3 mois que la rue se mobilise en Bulgarie. 3 mois que les manifestants demandent la démission du gouvernement. Et alors que Bruxelles a pris hier fait et cause pour les manifestants avec une résolution votée au Parlement européen, nous faisons ce matin le bilan de cette contestation. C'est avec Damien Vodinitcharov.
Le Premier ministre Boyko Borissov a vacillé à plusieurs reprises. Il s'est dit prêt à jeter l'éponge en août pour faire volte-face le lendemain. Le gouvernement passe maintenant à l'offensive. Des allocations plus importantes, une hausse des retraites de 25 euros par mois, des promesses de pensions plus élevées l'année prochaine, lorsque se tiendront les prochaines législatives. Et les manifestations donnent du fil à retordre aux politiques de toutes les couleurs. Le parti guerre de Borissov, comme le parti socialiste dans l'opposition, risque de perdre la moitié de leur électorat au profit de nouveaux venus au Parlement. Les manifestations, quotidiennes au début, sont maintenant organisées autour de grands soulèvements populaires, en référence au souffle révolutionnaire du 19e siècle. Ces manifestations grand format rassemblent des mécontents de tout le pays, venus jeter des œufs et des tomates aux portes du Parlement et du Conseil des ministres. Le Parlement européen a finalement regardé de près la situation en Bulgarie. Les députés européens ont même adopté une résolution pour exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis des grands dossiers dans le pays. Manque de résultats dans la lutte contre la corruption et dans la réforme du système judiciaire, détérioration de la liberté de la presse, détournement des fonds européens au profit des oligarques. Cet intérêt de la part du Parlement européen est vécu comme une petite victoire par les protestataires pour qui la corruption est au cœur du pouvoir détenu par Borissov depuis près d'une décennie. Pourtant, cette résolution n'est pas contraignante. Le levier principal de Bruxelles demeure le mécanisme de coopération et de vérification mis en place en 2007 lorsque la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne.
Damian Vodenicharov pour France Culture. Les averses progressent sur une large moitié nord du pays ce matin, d'ouest en est au fil de la journée, ailleurs comme hier. Le soleil se fera une place avec 9 degrés ce matin à Brest, 12 à Bordeaux et Strasbourg, 14 à Paris et 16 à Nice.